Le Lys dans la vallée, chapitre 16. En ce moment où jamais je ne me sentis plus vivement atteint dans mes entrailles et où je ne vivais que dans cette âme sur laquelle je tâchais d'envoyer la brise lumineuse des matins et l'espérance des soirs empourprés, je rencontrais dans les salons de l'Élysée Bourbon l'une de ces illustres ladies qui sont à demi souveraines. D'immenses richesses, la naissance dans une famille qui, depuis la conquête, était pure de toutes mes alliances, un mariage avec l'un des vieillards les plus distingués de la pairie anglaise, tous ces avantages n'étaient que des accessoires qui rehaussaient la beauté de cette personne, ses grâces, ses manières, son esprit, je ne sais quel brillant qui éblouissait avant de fasciner. Elle fut l'idole du jour, et régna d'autant mieux sur la société parisienne qu'elle eut les qualités nécessaires à ses succès, la main de fer sous un gant de velours dont parlait Bernadotte. Vous connaissez la singulière personnalité des Anglais, cette orgueilleuse manche infranchissable, ce froid canal Saint-Georges qu'ils mettent entre eux et les gens qui ne leur sont point présentés. L'humanité semble être une fourmilière sur laquelle ils marchent. Ils ne connaissent de leur espèce que les gens admis par eux. Les autres, ils n'en entendent pas le langage. C'est bien des lèvres qui se remuent et des yeux qui voient, mais ni le son ni le regard ne les atteignent. Pour eux, ces gens sont comme s'ils n'étaient point. Les Anglais offrent ainsi comme une image de leur île où la loi régit tout, où tout est uniforme dans chaque sphère, où l'exercice des vertus semble être le jeu nécessaire de rouages qui marche à heure fixe. Les fortifications d'acier poli élevées autour d'une femme anglaise, encagée dans son ménage par des fils d'or, mais où sa mangeoire et son abreuvoir, où ses bâtons et sa pâture sont des merveilles, lui prêtent d'irrésistibles attraits. Jamais un peuple n'a mieux préparé l'hypocrisie de la femme mariée en la mettant à tout propos entre la mort et la vie sociale. Pour elle, aucun intervalle entre la honte et l'honneur. Ou la faute est complète, ou elle n'est pas. C'est tout ou rien. Le « to be or not to be » d'Hamlet. Cette alternative, jointe au dédain constant auquel les mœurs l'habituent, fait d'une femme anglaise un être à part dans le monde. C'est une pauvre créature, vertueuse par force et prête à se dépraver, condamnée à de continuels mensonges enfouis en son cœur, mais délicieuse par la forme, parce que ce peuple a tout mis dans la forme. De là les beautés particulières aux femmes de ce pays, cette exaltation d'une tendresse où pour elles se résume nécessairement la vie, l'exagération de leurs soins pour elles-mêmes, la délicatesse de leur amour, si gracieusement peinte dans la fameuse scène de Roméo et Juliette, où le génie de Shakespeare a d'un trait exprimé la femme anglaise. À vous qui leur enviez tant de choses, que vous dirais-je que vous ne sachiez de ces blanches sirènes, impénétrables en apparence et sitôt connues? Qui croit que l'amour suffit à l'amour et qui importe le spleen dans les jouissances en ne les variant pas, dont l'âme n'a qu'une note, dont la voix n'a qu'une syllabe, océan d'amour, ou qui n'a pas nagé ignorera toujours quelque chose de la poésie des sens, comme celui qui n'a pas vu la mer aura des cordes de moins à salir. Vous connaissez le pourquoi de ces paroles. Mon aventure avec la marquise Dudley est une fatale célébrité. Dans un âge où les sens ont tant d'empire sur nos déterminations, chez un jeune homme où leurs ardeurs avaient été si violemment comprimées, l'image de la sainte qui souffrait son lent martyr à Clochegourde rayonna si fortement que je pus résister aux séductions. Cette fidélité fut le lustre qui me valut l'attention de Lady Arabelle. Ma résistance aiguisa sa passion. Ce qu'elle désirait, comme le désirent beaucoup d'Anglaises, était l'éclat, l'extraordinaire. Elle voulait du poivre, du piment pour la pâture du cœur, de même que les Anglais veulent des condiments enflammés pour réveiller leur goût. La tonique met dans l'existence de ces femmes une perfection constante dans les choses une régularité méthodique dans les habitudes, les conduit à l'adoration du romanesque et du difficile. Je ne sus pas juger ce caractère. Plus je me renfermais dans un froid dédain, plus Lady Dudley se passionnait. Cette lutte dont elle se faisait gloire excita la curiosité de quelques salons. Ce fut pour elle un premier bonheur qui lui faisait une obligation de triomphe. Ah, j'eusse été sauvée si quelque ami m'avait répété le mot atroce qui lui échappa sur Madame de Mortsauf et sur moi. « Je suis, dit-elle, ennuyée de ces soupirs de tourterelle. » Sans vouloir ici justifier mon crime, je vous ferai observer, Nathalie, qu'un homme a moins de ressources pour résister à une femme que vous n'en avez pour échapper à nos poursuites. Nos mœurs interdisent à notre sexe les brutalités de la répression qui, chez vous, sont des amorces pour un amant et que d'ailleurs les convenances vous imposent. À nous, au contraire, je ne sais quelle jurisprudence de fatuité masculine ridiculise notre réserve. Nous vous laissons le monopole de la modestie pour que vous ayez le privilège des faveurs. Mais intervertissez les rôles. L'homme succombe sous la moquerie. Quoique gardé par ma passion, je n'étais pas à l'âge où l'on reste insensible aux triples séductions de l'orgueil, du dévouement et de la beauté. Quand Lady Arabelle mettait à mes pieds, au milieu d'un bal dont elle était la reine, les hommages qu'elle y recueillait, et qu'elle épiait mon regard pour savoir si sa toilette était de mon goût, et qu'elle frissonnait de volupté lorsqu'elle me plaisait, j'étais émue de son émotion. Elle se tenait d'ailleurs sur un terrain où je ne pouvais pas la fuir. Il m'était difficile de refuser certaines invitations parties du cercle diplomatique. Sa qualité lui ouvrait tous les salons, et avec cette adresse que les femmes déploient pour obtenir ce qui leur plaît, elle se faisait placer à table par la maîtresse de la maison auprès de moi, puis elle me parlait à l'oreille. « Si j'étais aimée comme l'est Madame de Mortsauf, me disait-elle, je vous sacrifierais tout. » Elle me soumettait en riant les conditions les plus humbles. Elle me promettait une discrétion à toute épreuve ou me demandait de souffrir seulement qu'elle m'aimât. Elle me disait un jour ces mots qui satisfaisaient toutes les capitulations d'une conscience timorée et les effrénés désirs du jeune homme. « Votre amie toujours et votre maîtresse quand vous le voudrez. » Enfin, elle médita de faire servir à ma perte la loyauté même de mon caractère. Elle gagna mon valet de chambre et après une soirée où elle s'était montrée si belle qu'elle était sûre d'avoir excité mes désirs, je la trouvais chez moi. Cet éclat retentit dans l'Angleterre et son aristocratie se consterna comme le ciel à la chute de son plus bel ange. Lady Dudley quitta son nuage dans l'Empire britannique, se réduisit à sa fortune et voulut éclipser par ses sacrifices celle dont la vertu causa ce célèbre désastre. Lady Arabelle prit plaisir, comme le démon sur le faîte du temple, à me montrer les plus riches pays de son ardent royaume. Lisez-moi, je vous en conjure, avec indulgence. Il s'agit ici d'un des problèmes les plus intéressants de la vie humaine, d'une crise à laquelle ont été soumis la plus grande partie des hommes, et que je voudrais expliquer, ne fût-ce que pour allumer un phare sur cet écueil. Cette belle lady, si svelte, si frêle, cette femme de lait, si brisée, si brisable, si douce, d'un front si caressant, couronnée de cheveux de couleur fauve et si fin, cette créature dont l'éclat semble phosphorescent et passager est une organisation de fer. Quelque fougueux qu'il soit, aucun cheval ne résiste à son poignet nerveux, à cette main molle en apparence et que rien ne lasse. Elle a le pied de la biche, un petit pied sec et musculeux sous une grâce d'enveloppe indescriptible. Elle est d'une force à ne rien craindre dans une lutte. Nul homme ne peut la suivre à cheval. Elle gagnerait le prix d'un steeplechase sur des centaures. Elle tire les daims et les cerfs sans arrêter son cheval. Son corps ignore la sueur. Il aspire le feu dans l'atmosphère et vit dans l'eau sous peine de ne pas vivre. Aussi sa passion est-elle toute africaine. Son désir va comme le tourbillon du désert. Le désert dont l'ardente immensité se peint dans ses yeux. Le désert plein d'azur et d'amour, avec son ciel inaltérable, avec ses fraîches nuits étoilées. Quelles oppositions avec Clochegourde. L'Orient et l'Occident, l'un attirant à elle les moindres parcelles humides pour s'en nourrir, l'autre exsudant son âme, enveloppant ses fidèles d'une lumineuse atmosphère. Celle-ci, vive et svelte, celle-là, lente et grasse. Enfin, avez-vous jamais réfléchi au sens général des mœurs anglaises ? N'est-ce pas la divinisation de la matière, un épicurisme défini, médité, savamment appliqué ? Quoi qu'elle fasse ou dise, l'Angleterre est matérialiste, à son insu peut-être. Elle a des prétentions religieuses et morales, d'où la spiritualité divine, d'où l'âme catholique est absente et dont la grâce fécondante ne sera remplacée par aucune hypocrisie, quelque bien jouée qu'elle soit. Elle possède au plus haut degré cette science de l'existence qui bonifie les moindres parcelles de la matérialité, qui fait que votre pantoufle est la plus exquise pantoufle du monde, qui donne à votre linge une saveur indicible, qui double de cèdre et parfume les commodes, qui verse à l'heure dite un thé suave, savamment déplié, qui bannit la poussière, cloue des tapis depuis la première marche jusque dans les derniers replis de la maison, brosse les murs des caves, polit le marteau de la porte, assouplit les ressorts du carrosse, qui fait de la matière une pulpe nourrissante et cotonneuse, brillante et propre, au sein de laquelle l'âme expire sous la jouissance, qui produit l'affreuse monotonie du bien-être, donne une vie sans opposition, dénuée de spontanéité, et qui, pour tout dire, vous machinise. Ainsi, je connus tout à coup au sein de ce luxe anglais une femme peut-être unique en son sexe qui m'enveloppa dans les raies de cet amour renaissant de son agonie et aux prodigalités duquel j'apportais une continence sévère, de cet amour qui a des beautés accablantes, une électricité à lui qui vous introduit souvent dans les cieux par les portes d'ivoire de son demi-sommeil ou qui vous y enlève en croupe sur ses reins ailés. Amour horriblement ingrat, qui rit sur les cadavres de ceux qu'il tue. Amour sans mémoire, un cruel amour qui ressemble à la politique anglaise et dans lequel tombent presque tous les hommes. Vous comprenez déjà le problème. L'homme est composé de matière et d'esprit. L'animalité vient aboutir en lui et l'ange commence à lui. De là, cette lutte que nous éprouvons tous entre une destinée future que nous pressentons et les souvenirs de nos instincts antérieurs dont nous ne sommes pas entièrement détachés, un amour charnel et un amour divin. Tel homme les résout en un seul, tel autre s'abstient. Celui-ci fouille le sexe entier pour y chercher la satisfaction de ses appétits antérieurs, celui-là l'idéalise en une seule femme dans laquelle se résume l'univers. Les uns flottent indécis entre les voluptés de la matière et celles de l'esprit. Les autres spiritualisent la chair en lui demandant ce qu'elle ne saurait donner. Si, pensant à ces traits généraux de l'amour, vous tenez compte des répulsions et des affinités qui résultent de la diversité des organisations et qui brisent les pactes conclus entre ceux qui ne se sont pas éprouvés, si vous y joignez les erreurs produites par les espérances des gens qui vivent plus spécialement par l'esprit, par le cœur ou par l'action, qui pensent, qui sentent ou qui agissent, et dont les vocations sont trompées, méconnues dans une association où il se trouve deux êtres également doubles, vous aurez une grande indulgence pour les malheurs envers lesquels la société se montre sans pitié. Eh bien, Lady Arabelle contente les instincts, les organes, les appétits, les vices et les vertus de la matière subtile dont nous sommes faits. Elle était la maîtresse du corps. Madame de Mortsauf était l'épouse de l'âme. L'amour que satisfait la maîtresse a des bornes. La matière est finie. Ses propriétés ont des forces calculées. Elle est soumise à d'inévitables saturations. Je sentais souvent je ne sais quel vide à Paris près de Lady Dudley. L'infini est le domaine du cœur. L'amour était sans bornes à Clochegourde. J'aimais passionnément Lady Arabelle. Et certes, si la bête était sublime en elle, elle avait aussi de la supériorité dans l'intelligence. Sa conversation moqueuse embrassait tout. Mais j'adorais Henriette. La nuit, je pleurais de bonheur. Le matin, je pleurais de remords. Il est certaines femmes assez savantes pour cacher leur jalousie sous la bonté la plus angélique. C'est celles qui, semblables à Lady Dudley, ont dépassé 30 ans. Ces femmes savent alors sentir et calculer, presser tout le suc du présent et penser à l'avenir. Elles peuvent étouffer des gémissements, souvent légitimes, avec l'énergie du chasseur qui ne s'aperçoit pas d'une blessure en poursuivant son bouillant Alali. Sans parler de Madame de Mortsauf, Arabelle essayait de la tuer dans mon âme où elle la retrouvait toujours et sa passion se ravivait au souffle de cet amour invincible. Afin de triompher par des comparaisons qui fussent à son avantage, elle ne se montra ni soupçonneuse, ni tracassière, ni curieuse, comme le sont la plupart des jeunes femmes. Mais semblable à la lionne qui a saisi dans sa gueule et rapporté dans son antre une proie à ronger, elle veillait à ce que rien ne troublât son bonheur et me gardait comme une conquête insoumise. J'écrivais à Henriette sous ses yeux. Jamais elle ne lut une seule ligne. Jamais elle ne chercha par aucun moyen à savoir l'adresse écrite sur mes lettres. J'avais ma liberté. Elle semblait s'être dit « Si je le perds, je n'en accuserai que moi. » Et elle s'appuyait fièrement sur un amour si dévoué qu'elle m'aurait donné sa vie sans hésiter si je la lui avais demandé. Enfin, elle m'avait fait croire que si je la quittais, elle se tuerait aussitôt. Il fallait l'entendre à ce sujet, célébrer la coutume des veuves indiennes qui se brûlent sur le bûcher de leur mari. Quoique dans l'Inde, cet usage soit une distinction réservée à la classe noble et que sous ce rapport, il soit peu compris des Européens, incapables de deviner la dédaigneuse grandeur de ce privilège. « Avouez, me disait-elle, que dans nos plates mœurs modernes, l'aristocratie ne peut plus se relever que par l'extraordinaire des sentiments. Comment puis-je apprendre aux bourgeois que le sang de mes veines ne ressemble pas au leur, si ce n'est en mourant autrement qu'ils ne meurent ? Des femmes sans naissance peuvent avoir des diamants, les étoffes, les chevaux, les écussons même qui devraient nous être réservés, car on achète un nom. Mais aimer, tête levée, à contresens de la loi, mourir pour l'idole que l'on s'est choisie en se taillant un linceul dans les draps de son lit, soumettre le monde et le ciel à un homme en dérobant ainsi au Tout-Puissant le droit de faire un dieu, ne le trahir pour rien, pas même pour la vertu, car se refuser à lui, au nom du devoir, n'est-ce pas se donner à quelque chose qui n'est pas lui ? Que ce soit un homme ou une idée, il y a toujours trahison. Voilà des grandeurs où n'atteignent pas les femmes vulgaires. Elles ne connaissent que deux routes communes, ou le grand chemin de la vertu, ou le bourbeux sentier de la courtisane. Elle procédait, vous le voyez, par orgueil. Elle flattait toutes les vanités en les déifiant. Elle me mettait si haut qu'elle ne pouvait vivre qu'à mes genoux. Aussi, toutes les séductions de son esprit étaient-elles exprimées par sa pose d'esclave et par son entière soumission. Elle savait rester tout un jour étendue à mes pieds, silencieuse, occupée à me regarder, épiant l'heure du plaisir comme une cadine du sérail et l'avançant par d'habiles coquetteries tout en paraissant l'attendre. Par quels mots peindre les 6 premiers mois pendant lesquels je fus en proie aux énervantes jouissances d'un amour fertile en plaisir et qui les variait avec le savoir que donne l'expérience, mais en cachant son instruction sous les emportements de la passion. Ces plaisirs, subites révélations de la poésie des sens, constituent le lien vigoureux par lequel les jeunes gens s'attachent aux femmes plus âgées qu'eux. Mais ce lieu est l'anneau du forçat. Il laisse dans l'âme une ineffable empreinte. Il y met un dégoût anticipé pour les amours frais, candides, riches de fleurs seulement, et qui ne savent pas servir d'alcool dans des coupes d'or curieusement ciselées, enrichies de pierres, où brillent d'inépuisables feux. En savourant les voluptés que je rêvais sans les connaître, que j'avais exprimées dans mes célames, et que l'union des âmes rend mille fois plus ardente, je ne manquais pas de paradoxes pour me justifier à moi-même la complaisance avec laquelle je m'abreuvais à cette belle coupe. Souvent, lorsque, perdue dans l'infini de la lassitude, mon âme dégagée du corps voltigeait loin de la terre, je pensais que ces plaisirs étaient un moyen d'annuler la matière et de rendre l'esprit à son vol sublime. Souvent, Lady Dudley, comme beaucoup de femmes, profitait de l'exaltation à laquelle conduit l'excès du bonheur pour me lier par des serments. Et sous le coup d'un désir, elle m'arrachait des blasphèmes contre l'ange de Clochegourde. Une fois traître, je devins fourbe. Je continuais d'écrire à Madame de Mortsauf comme si j'étais toujours le même enfant au méchant petit habit bleu qu'elle aimait tant. Mais, je l'avoue, son don de seconde vue m'épouvantait quand je pensais au désastre qu'une indiscrétion pouvait causer dans le joli château de mes espérances. Souvent, au milieu de mes joies, une soudaine douleur me glaçait. J'entendais le nom d'Henriette prononcé par une voix d'en haut comme le « Caïn, où est Abel ?» de l'écriture. Mes lettres restèrent sans réponse. Je fus saisi d'une horrible inquiétude. Je voulus partir pour Clochegourde. Arabelle ne s'y opposa point, mais elle parla naturellement de m'accompagner en Touraine. Son caprice, aiguisé par la difficulté, ses pressentiments justifiés par un bonheur inespéré, tout avait engendré chez elle un amour réel qu'elle désirait rendre unique. Son génie de femme lui fit apercevoir dans ce voyage un moyen de me détacher entièrement de Madame de Mortsauf. Tandis que, aveuglé par la peur, emporté par la naïveté de la passion vraie, je ne vis pas le piège où j'allais être pris. Lady Dudley proposa les concessions les plus humbles et prévint toutes les objections. Elle consentit à demeurer près de Tours, à la campagne, inconnue, déguisée, sans sortir le jour, et à choisir pour nos rendez-vous les heures de la nuit où personne ne pouvait nous rencontrer. Je partis de Tours à cheval pour Clochegourde. J'avais mes raisons en y venant ainsi, car il me fallait pour mes excursions nocturnes un cheval, et le mien était un cheval arabe que Lady Esther Stanhope avait envoyé à la marquise et qu'elle m'avait échangé contre ce fameux tableau de Rembrandt qu'elle a dans son salon à Londres et que j'ai si singulièrement obtenu. Je pris le chemin que j'avais parcouru pédestrement 6 ans auparavant et m'arrêtai sous le noyer. De là, je vis Madame de Mortsauf en robe blanche au bord de la terrasse. Aussitôt, je m'élançai vers elle avec la rapidité de l'éclair et fus en quelques minutes au bas du mur, après avoir franchi la distance en droite ligne, comme s'il s'agissait d'une course au clocher. Elle entendit les bombes prodigieux de l'hirondelle du désert, et quand je l'arrêtai net au coin de la terrasse, elle me dit « Ah, vous voilà !»